C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir à vous.
Bonsoir Roselyne.
Alors lorsque François Bayrou a été nommé à Matignon, il avait emprunté cette phrase à François Mitterrand. Enfin, les ennuis commencent. Il était sûr de ne pas se tromper. Après avoir esquivé les censures et les attaques multiples, le Premier ministre montre cette fois les dents face à l'Algérie. Avec un flegme habituel, François Bayrou veut tordre le bras à Alger et menace de dénoncer les accords de 1968 qui réglementent la circulation des ressortissants algériens en France. Bruno Retailleau, lui, partisan de la manière forte, refuse d'être le ministre de l'impuissance et veut instaurer des rapports de force. L'homme le mieux coté à la bourse de l'opinion est en train de doubler Marine Le Pen, d'ailleurs, dans les sondages. Et puis, bien sûr, comment ne pas évoquer ce tournant diplomatique ou ce marchandage, peut-être, avec Donald Trump pour la paix en Russie, en Ukraine, pardon, à coup d'accords commerciaux. On en parle avec Bruno Jeudy, directeur de la Tribune Dimanche. Bonsoir à vous,
bonsoir,
mon cher
Gilles.
Bruno. Catherine Tricot, directrice de la revue Regard. Bonsoir,
bonsoir
à vous, Catherine. Stéphane Vernet, éditorialiste à Ouest France. Bonsoir.
Bonsoir.
Et en fin d'émission, Véronique Reissoult nous racontera la folle vie des réseaux sociaux. Alors hier, lors d'un comité interministériel sur le contrôle de l'immigration, François Bayrou est devenu menaçant envers l'Algérie qui refuse de reprendre les personnes frappées par une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Une soudaine montée de fièvre après le 14e refus par Alger de reprendre un de ses ressortissants coupables d'une attaque terroriste à Mulhouse. On écoute le Premier ministre.
La France va demander au gouvernement algérien que soit réexaminée la totalité des accords et la manière dont ces accords sont exécutés. Nous allons faire cette démarche en donnant un mois, 6 semaines, pour que nous puissions les réexaminer. Nous voulons qu'on trouve des voies pour que, enfin, les accords soient respectés et que la réadmission puisse être possible. Si ça n'était pas le cas, le gouvernement français considérerait que les avantages particuliers qui sont consentis au terme de ces accords devront être remis en cause.
Voilà, Jean-Marie, l'Algérie va trembler. On voit Bruno Retailleau un peu les bras croisés, un peu serré, on va dire, dans son costume, en disant « mais vas-y plus vite, plus
fort ». En tout cas, dans l'histoire des relations entre les deux pays, on peut inverser les choses. Jusqu'à présent, tous les gestes positifs, amicaux, marqués du sceau de la réconciliation, qu'ont entrepris chacun des présidents français depuis François Mitterrand. François Mitterrand va à Alger, d'à peine élu, et tous le font ensuite, reviennent de leur voyage ravis, satisfaits, avec des promesses, en effet, de réconciliation, de commerce, d'entreprise, ainsi de suite. Et 8 jours après, 15 jours après, un mois plus tard, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire qu'il y a toujours une façon de l'Algérie de vouloir continuer à punir la France. Ce sont les mots prêtés au président algérien sur les sortes de crédits de mauvaise conduite vis-à-vis de la France, quoi qu'il aurait, parce qu'on a 130 ans devant nous, parce que la colonisation a duré 130 ans. Donc il faut voir que jusqu'à présent, la France a quand même été globalement plutôt maltraitée par rapport à ces... Le casus belli qui est survenu et qui a mis hors d'eux les dirigeants algériens, c'est évidemment la réconciliation entre la France et le Maroc. Oui. C'est-à-dire, c'est l'acceptation par la France de la marocanité du sud du Sahara occidental. Ce qui a fait, qui a été très critiqué, par exemple, au Quai d'Orsay, puisque le Quai d'Orsay, ça n'était pas sa ligne, c'était la ligne était une ligne plus ou moins équilibrée, mais qui, encore une fois, n'avait pas évité à la France.
Alors que le Front Polisario est mollement défendu par Alger,
mais néanmoins, de reconnaître la marocanité de ce territoire, pour les Algériens, c'était... Voilà. Et donc, on ne sortira pas de cela tant que la France ne sera pas revenue en arrière. La France ne reviendra pas en arrière, non, de ce point de vue-là. Donc, c'est difficile de voir quelle issue peut être donnée à cela, sinon que la France va en effet... Il y a peu de chances pour que, dans le délai imparti par le Premier ministre, il se passe quelque chose qui aille dans le sens des autorités algériennes.
Alors, Bruno, on peut se poser la question, pourquoi une soudaine agitation, une montée de fièvre? Est-ce que c'est effectivement l'actualité avec cet attentat au couteau à Mulhouse et cette OQTF, donc cette personne dont Alger n'a pas voulu? Est-ce que c'est à peu près la seule raison de cette montée de Fiev, qui d'abord avait commencé effectivement aussi avec l'arrestation de Boualem Sansal.
Alors d'abord, elle n'est pas soudaine, Rosine, parce qu'en fait...
Non, ça fait longtemps
que ça fait un moment que ça monte beaucoup. Vous parlez de Boualem Sansal, vous pouvez ajouter aussi l'incroyable affaire de l'influenceur algérien qui a été ramené sur le territoire algérien, quelqu'un qui avait un passeport algérien, qui était sur l'aéroport et qui a dû repartir dans l'autre sens parce que les Algériens n'ont pas voulu le prendre au mépris du droit international. La vérité, c'est que l'Algérie ne respecte pas le droit international en matière de retour de personnes qui sont éloignées d'un territoire. En tous les cas, avec la France. Elle le fait sans doute avec d'autres pays, mais elle ne le fait pas avec la oui. France. Et ça remonte beaucoup plus loin.
Mais ma question, c'était... Vous avez raison sur la montée de fièvre. Mais c'est surtout la réaction de François Bayrou.
Je pense que Bruno Retailleau joue une partie de sa crédibilité dans cette affaire. Il a décidé de camper une ligne dure en matière d'immigration. Il veut des résultats sur le front des OQTF. Les OQTF ont augmenté l'année dernière les personnes qui ont été éloignées du territoire de 27%, mais pour l'Algérie, c'est deux fois moins. Aujourd'hui, les OQTF algériens, c'est les plus nombreux en France. C'est aussi ceux qui sont les plus nombreux dans les CRA, les centres de rétention administrative. Et la France est incapable de les éloigner du territoire après décision de justice. Ouais. Donc il y a un problème, il y a un blocage. Moi, je pense que François Bayrou essaie de trouver une solution qui n'aille pas jusqu'à la rupture diplomatique. Ça n'aurait pas de sens. On n'arriverait plus à éloigner personne. Mais il faut durcir le ton. Et c'est ce que veut faire Bruno Retailleau, qui, évidemment, tout ça le fait aussi dans une ambiance dans le pays où il y a le Rassemblement national qui attend la moindre erreur du ministre de l'Intérieur. Il y a aussi cette petite bataille politique avec la présidence Zeller. Mais j'allais dire, tout ça, c'est un petit peu secondaire. Il y va aussi de la population qui ne comprend pas pourquoi cet homme a tué... un habitant de Mulhouse, alors qu'il n'a pas respecté son contrôle dans la journée, il était sous le coup d'une dizaine de refus de l'Algérie de le reprendre. Donc, de toute façon, c'est incompréhensible pour l'opinion. Donc, Bruno Retailleau est soutenu par l'opinion sur ce.
Oui, mais il le sait.
Il ne peut pas décevoir.
Et Stéphane, il ne veut pas être marqué du sceau de l'impuissance.
Oui, et puis il y a un récit ou il y a un discours qui se fait autour du fait que l'Algérie humilie la France en refusant de reprendre ses ressortissants, en tenant tête aux demandes de l'État français, etc. Et ça c'est quelque chose qui percole dans l'opinion. Effectivement, moi je suis complètement d'accord avec Bruno Judy sur le fait que il y a une incompréhension et un soutien de la part vraisemblablement d'une majorité de l'opinion dans ce type d'action. Ceci étant dit, si on remet les choses en perspective, il faut avoir en tête qu'on parle beaucoup des accords de 68 avec l'Algérie, mais il faut savoir que l'État français a signé 197 accords de même nature avec différents pays dans le monde. Les trois quarts de ces accords sont des accords bilatéraux, donc il n'y a pas qu'avec l'Algérie qu'on a ce type d'accord, et que sur les OQTF, en fait, laissez-passer consulaires, avant la fameuse histoire évoquée par Jean-Marie tout à l'heure du Sahara occidental et la reconnaissance de la, je ne sais pas si je vais réussir à le dire, la marocanisation. Merci. Du Sahara occidental, l'Algérie délivrait plutôt plus de laissez-passer consulaires que beaucoup d'autres pays, et notamment plus de laissez-passer consulaires que le Maroc. Donc il y a un bras de fer aujourd'hui entre l'Algérie et la France, en tout cas entre les dirigeants de l'État algérien, les dirigeants de l'État français. Et derrière, l'autre question, si vous voulez, c'est celle de la présence algérienne, de ressortissants algériens en France, les rapports qu'on a entre la France et l'Algérie, le niveau d'immigration algérienne en France. Et je ne suis pas sûr que ce qui a été montré hier ou les déclarations qui ont été faites soient de nature à améliorer les choses. Ouais. En l'occurrence, dire on se donne 6 semaines pour revoir le traité, etc. Et éventuellement dénoncer.
C'est un peu la méthode de François Bayrou, c'est comme avec les retraites, c'est
un conclave. Il y a peut-être d'autres leviers à actionner. Ouais. Et c'est le choix qui est fait. Moi, me fait dire que si vous voulez, on est beaucoup dans de l'affichage et de la communication par rapport au récit qui a été constitué et aux différents enjeux, notamment de Bruno Retailleau, qui ont été évoqués. Est-ce que c'est la bonne méthode, cette nature à porter ses fruits, c'est une autre question. Je ne suis pas certain.
Oui, alors on m'a posé la question à Catherine. Est-ce que cette méthode-là, employée par François Bayrou, est de nature à arranger les choses, ou est-ce que c'est effectivement des coups de menton pour rien? Et puis, est-ce que la France est effectivement humiliée par l'Algérie? Question.
pas qu'est-ce qu'il cherche, en fait. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une question qui est préoccupante, c'est que ce soit Bruno Retailleau qui prenne en charge le dossier de l'Algérie, le dossier des relations avec l'Algérie. Bruno Retailleau, il est ministre de l'Intérieur, il n'est pas ministre des Affaires étrangères.
Enfin, les OQTF, c'est un peu
son discours est un discours qui porte sur les relations avec l'Algérie. C'est, l'Algérie nous humilie, il faut passer à la manière forte, etc. C'est-à-dire qu'il ne parle pas simplement des OQTF, il généralise et globalise son propos. D'ailleurs, la question des relations avec l'Algérie n'est pas qu'une question qui concerne les OQTF. Si on enferme les relations avec l'Algérie dans la question des OQTF, je pense qu'on devient tout petit. Et le problème, c'est que ce que je crois, c'est qu'un, il y a un problème de qui porte le discours et la voix de la France. Est-ce que c'est le ministre des Affaires étrangères? Est-ce que c'est le président de la République? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous venez de le rappeler, c'est que en fait, on a une dégradation des relations entre la France et l'Algérie qui remonte, comme ça vient d'être rappelé à cet été, avec la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental contre la position de l'ONU. Pardon, parce que l'ONU ne reconnaît pas le Sahara occidental comme marocain. La France prend une position qui rompt avec la tradition diplomatique historique et rompt avec le consensus international qui est de ne pas reconnaître le Sahara occidental comme marocain. Donc ils le font, ça fâche beaucoup l'Algérie qui ne revendique pas. L'Algérie ne revendique pas le Sahara occidental.
Non, elle soutient le Front Polisario.
Elle soutient le Front Polisario, mais elle ne revendique pas le Sahara occidental pour elle-même. Elle ne demande pas que le Sahara occidental fasse partie de l'Algérie. Donc, il y a une fâcherie, il y a une grosse fâcherie, mais ce qu'il faudrait comprendre, c'est que pourquoi il y a cette fâcherie et qu'est-ce qu'elle engage. Là, je ne sais pas si on aura le temps de parler ou s'il est prévu de parler des évolutions internationales.
Oui, on va en parler.
Mais on est quand même dans un moment dans lequel le problème, c'est aussi de trouver des alliés. Ce n'est pas de se fâcher avec tout le monde, les uns derrière les autres. Et le fait que la France continue de s'imaginer être toute puissante et pouvoir donner des ultimatums comme ça, d'abord, ça va lui revenir en boomerang parce qu'il n'y aura pas de réponse favorable à cet ultimatum. Donc, on va se retrouver comme des idiots.
Oui, mais enfin, est-ce qu'on peut s'aplatir aussi devant l'Algérie qui ne respecte pas le contrat?
Non,
si
mais,
je
moi,
dire,
c'est, mais moi, ce que je crois, c'est qu'on ne peut pas penser dans ces termes. Voilà, c'est ça. Non. J'ai pas dit qu'on ne faisait rien. Ce que je dis, c'est s'aplatir. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'on peut pas avoir les rapports de force, les relations avec l'Algérie en termes de rapports?
Mais
non, justement, ce qui vient d'être rappelé.
Gérald Darmanin l'a fait il y a deux ans. Il a fait exactement la même chose.
Ce qui vient d'être rappelé, c'est que les OQTF, d'abord. Contrairement à ce que vous avez dit, Bruno, tout à l'heure, il y a pour les ressortissants, pour qu'ils repartent dans leur pays, le droit international, c'est que les pays les acceptent.
Oui, mais justement, donc ce n'est comme pas par hasard, ils ne les acceptent pas.
Donc, ce n'est pas au mépris du droit international. Donc, je voulais juste dire ce point.
Il y a une décision de justice
Justice. Celui qui a été renvoyé, le premier, là, l'influenceur en Algérie, il n'y avait pas eu de décision de justice. Là,
Il était sous le coup d'une expulsion de la part du ministre de l'Intérieur.
D'ailleurs, les juges.
Il peut prendre une décision de
ce type. Les juges ont déjugé Retailleau sur ce point.
Ça, c'est un bon
point. Ce que je veux juste dire, c'est qu'on ne peut pas, d'abord, au départ, l'Algérie.
On ne peut pas les expulser, ça, c'est sûr.
Au départ, l'Algérie donnait plus d'accord sur les OQTF que bien d'autres pays. Deux, les relations se sont dégradées. Trois, est-ce qu'on va rétablir des relations et est-ce qu'on va tout conditionner toutes les relations avec l'Algérie et pas simplement l'Algérie, parce que l'Algérie c'est un pays qui compte. Les relations entre la France et l'Algérie, c'est un emblème et c'est un emblème pour les autres pays africains.
Par ailleurs,
ce que je veux juste dire, c'est que dans les Français, il y a un quart des Français qui ont une relation personnelle avec l'Algérie.
Mais on est d'accord, mais ça, Catherine, ça ne remet pas en cause ça. Ce qui est remis en cause, c'est le fait que l'Algérie ne respecte pas les règles internationales, qui fait que aujourd'hui, il y a plus de laissez-passer consulaires de la part des États tunisiens et marocains.
Ce n'était pas le cas il y a un an.
Et on va passer à autre chose, là. Parce que là, on compte les balles.
Stéphanie, on va essayer de s'interposer.
Faites les casques bleus.
Mais juste au risque de me répéter, je voulais simplement rappeler, parce qu'on peut considérer que la France a tous les torts, etc., que tous les présidents de la République depuis...
François Mitterrand, honnêtement, oui, ont tous cherché la voie de la réconciliation et se sont tous fait envoyer balader par les Algériens, pour qui c'est une rente situation, la dénonciation de la France. C'est un pouvoir autoritaire et qui vit de cette rente. Et donc, à chaque fois qu'il y avait une percée ou une avancée, que ce soit Chirac, François Hollande ou autre, elles étaient immanquablement suivi par des mesures algériennes vexatoires qui consistaient à amenuiser le champ de l'apprentissage du français. C'était leur cible principale. On l'a sorti le français des universités, puis on l'a sorti des écoles, puis on l'a sorti ainsi de suite. Et donc c'est ça l'attitude du gouvernement algérien. Donc il ne faut pas non plus croire que l'Algérie est... Et par ailleurs, le Maroc est un pays où la France est aimée. Mmh. L'Algérie est un pays où la France n'est plus aimée par ses dirigeants. Donc on comprend le virage qui a été pris. Il n'y a pas d'autre explication que celle-là.
On va rester sur le cas de Bruno Retailleau, puisqu'un sondage Elab pour BFM révélait hier que sur l'immigration, 47% des Français faisaient confiance à Bruno Retailleau, dépassant Marine Le Pen, qui est, elle, créditée de 41% sur la confiance. Comme au TRC, le cheval Retailleau est au grand galop, Bruno ?
Oui, et surtout, le détail est intéressant. Il est quasiment majoritaire dans toutes les catégories politiques. Je crois qu'il dépasse même les 30% chez les filles et il est majoritaire au PS. Donc, pour Bruno Retailleau, ce sondage est plutôt un sondage qui peut le rassurer sur la ligne qu'il a choisie. Et au fond, il épouse aussi les inquiétudes des Français. Donc, pour l'instant, après... Le défi pour Bruno Retailleau, c'est de trouver de l'efficacité. Là, il est aux manettes depuis le mois de septembre. Le pouvoir du verbe va forcément s'étioler. Et sur le dossier des OQTF, il a mis beaucoup de poids. S'il ne parvient pas à des résultats palpables, concrets, d'ici quelques mois, ça se retournera contre lui.
Et est-ce qu'une partie de l'électorat de Marine Le Pen pourrait se tourner, alors là, bien sûr, on fait un peu de la politique fiction, Stéphane, mais vers le retaillisme?
Je sais pas, néologisme. Je pense qu'il peut y avoir une porosité, oui. C'est difficile à dire.
On voit bien son calcul aussi.
Ce qui est sûr, c'est que Bruno Retailleau, en fait, quand on regarde entre les cotes de popularité, les différents sondages, etc., il caracole en tête partout. Enfin, je veux dire, voilà, c'est lui qui, pour l'instant, il surfe sur la vague. Il est très bien placé parce que il répond à un certain nombre d'attentes, de besoins, etc., en termes d'autorité, de fermeté, discours sur l'immigration, la sécurité, ça match entre guillemets auprès de différents électorats, probablement auprès d'une grande partie de l'électorat Rassemblement National, sans doute, oui. Alors, moi, je ne sais pas le mesurer, mais ça fonctionne. Par contre, là où je rejoins complètement Bruno Jeudi, c'est que la difficulté qu'il va avoir, c'est que pour l'instant, il ne peut pas rester dans le ministère de la parole. Il faut que qu'il annonce soit suivi des faits, qu'il ait des résultats tangibles assez rapidement, parce que sinon... l'opinion peut se retourner en se disant finalement c'est du blabla, c'est de la parlotte, ça fonctionne pas, c'est que du coup de menton, c'est des effets de manche
un petit peu ce qu'a connu Gérald Darmanin
parce que de toute façon la parole elle est pas performative. Le problème c'est que il y a entre les déclarations et la réalité on se heurte aussi à la complexité du monde et puis des interlocuteurs qu'on a en face. Et la problématique qu'a Bruno Retailleau aujourd'hui, c'est qu'en plus il est engagé dans une course à l'échalote pour prendre la direction de la présidence de son parti. Et ce qui le dessert dans cette histoire, c'est que le processus électoral pour choisir, pour désigner le nouveau patron du DLR est très long. Ça va se jouer en mai. Et donc, plus le temps passe et plus
il faut des résultats.
Plus il risque de
ils sont tous dans cette catégorie-là, dans cette partie-là de l'échiquier politique, ils sont tous à la recherche d'un remake du sarkozysme. Et de dire Sarkozy, lui, a bien réussi, en effet, à contenir la montée du Front National.
Et parce qu'il était ministre de l'Intérieur avant de...
En faisant ce que faisait
avant
Sarkozy.
Avant d'être élu président.
En refaisant en utilisant les mêmes méthodes, on va obtenir que le Rassemblement National soit contenu comme Sarkozy avait réussi à le faire. Je ne suis pas sûr que ce soit pertinent, parce que d'abord, n'est pas Sarkozy qui veut, d'une part, et puis d'autre part, c'était des circonstances quand même assez particulières. Moi, je me faisais une hypothèse en écoutant vos chiffres et vos sondages, mais c'est une hypothèse qui peut être totalement farfelue. Il faut rappeler que les Français ont majoritairement, parce qu'on nous dit toujours, oui, mais les 8 millions ou 10 millions d'électeurs qui ont voté pour le Rassemblement National, etc. On oublie qu'ils sont infiniment plus nombreux à avoir refusé le Rassemblement National et que le Front Républicain a fonctionné fortement. Et donc, tout se passe un petit peu comme si ces personnes qui ont récusé le Rassemblement National, mais qui voudraient une politique qui ressemble à ce que voudrait le Front National, ça se jette sur la première personne qui peut leur éviter de continuer à voter Rassemblement National. Donc, on oublie le Rassemblement National dont on ne veut pas au pouvoir, mais on se saisit de la première personne venue qui, au contraire, par ses mots, par sa politique, va nous rassurer sur cette perspective. Donc c'est ça que je pense qui est peut-être en train de se passer. Peut-être.
Alors on va écouter, vous allez voir la réaction de Julien Odoul du Rassemblement National, qui, c'est un petit peu ce que vous disiez, Stéphane et Bruno, dans le fond, Retailleau peut s'égosiller, de toute façon, pour eux, ça ne marche pas. On l'écoute.
Monsieur Retailleau n'est que la pâle copie de ces robots de droite qui parlent comme le Rassemblement National, mais qui agissent comme la gauche. Toutes les mesures...
Le Sénat l'a voté. Hein.
Toutes les mesures qui sont annoncées par Monsieur Retailleau ne se concrétisent jamais. Donc moi, ce que j'appelle, c'est le bal des illusions qui se termine toujours en trahison.
Voilà, trahison.
La question, c'est de savoir si Retailleau va récupérer des électeurs du Front National, c'est ce qu'il croit. Ou est-ce qu'il acclimate une partie de l'électorat sur lequel il a encore un peu d'influence, un électorat de l'ouest de la France, un électorat bourgeois des centres-villes, est-ce qu'il les acclimate à l'idéologie, aux mots, aux idées du Front National? Je crois que c'est ça qui est en train de se passer, parce que le Front National a le vent en poupe. Parce que le Front National, il est fort de sa puissance en France, en Europe, à l'international. Et que l'idée que c'est Bruno Retailleau, à travers le grand enjeu des OQTF, pardon, d'avoir un tout petit peu d'ironie, mais je crois que la question de la France ne se résume pas à la question des OQTF, et que c'est sur ça qu'il espère faire le jackpot, je crois qu'il est d'abord sur une cible trop étroite, sur une proposition trop dépassée, et qu'il est en plus devant un adversaire qui est beaucoup plus structuré, beaucoup plus fort, et qui a beaucoup plus d'allant. Donc ce qui me semble qui va se passer très probablement, c'est certainement pas son pari, mais c'est ma conviction, c'est que Retailleau, en fait, alimente l'électorat de Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'il permet des ponts vers l'électorat, vers le Rassemblement National, notamment, encore une fois, de régions dans lesquelles l'extrême droite n'est pas encore en force, dans la bourgeoisie et dans l'ouest de la France.
On va dire un mot des... si vous voulez répondre, allez-y.
Je pense que Catherine se trompe. Je pense que ce qui est important, c'est d'abord l'efficacité du ministre de l'Intérieur. Effectivement, il est peu ou prou, et il tente de repousser la menace du RN. Aujourd'hui, clairement, l'avantage est du côté du RN. Sur ce point-là, Catherine a raison. Mais que peut-il faire? Il faut donc rien faire.
Non.
Il faut donc pas essayer d'être efficace.
Il faut combattre le RN
en étant efficace au ministère de l'Intérieur. Et d'ailleurs,
je ne crois pas qu'il repense ses idées.
Toutes les élections partielles qui ont eu lieu depuis l'installation de Bruno Retailleau.
C'est-à-dire deux.
Il
ne faut pas exagérer,
deux législatives.
Ça fait
depuis combien de temps que la droite républicaine n'avait pas dépassé.
J'entends bien, passer de
3
là, elle est à 6%, elle a marché haute quand même.
Enfin, sauf que la droite républicaine peut s'enorgueillir d'avoir participé au moins une victoire à son nom et aider les deux autres. C'est pas rien dans un parti qui part de très très bas. Ça veut dire quand même que Bruno Retailleau, il. Tout à coup, l'électorat de droite qui était en train soit de passer au RN, soit d'aller vers plutôt la Macronie, tout à coup, ça arrête sur un de ses leaders. C'est pas rien. Et surtout, c'est la seule nouveauté politique depuis l'été dernier.
Elle fera long feu. Nicolas Sarkozy n'a pas été que ministre de l'Intérieur. Il a fait une proposition politique qui était une proposition globale et compréhensible par tous. C'était travailler plus pour gagner plus. Il n'a pas simplement parlé des OQTF. Mmh. Ce que je veux dire, il était largement sorti de son périmètre de ministre de l'Intérieur et c'est comme ça qu'il a gagné.
À
un moment,
du Sarkozy, pardon.
Je suis juste en train de dire que ce n'est pas sur les OQTF qu'on gagne une élection présidentielle.
Stéphane, je suis à la fois d'accord avec Bruno, je dis, et avec Catherine.
Bravo Stéphane.
Non mais je pense que il y a la problématique de la droite aujourd'hui, c'est qu'elle a tendance à s'enfermer autour du triptyque sécurité, immigration, identité. Ce sont de vrais sujets qu'il faut pas négliger, il faut les traiter. Mais ce ne sont pas les seuls. Parce que le cœur du problème aussi dans un pays comme le nôtre, et pas qu'en France, en Europe, à travers le monde, dans l'ensemble de l'Occident, vous avez un problème de fond qui est le déclassement des classes moyennes, et notamment on a l'effondrement des classes moyennes industrielles, la menace de l'effondrement des classes moyennes des emplois de service avec l'IA, etc. Enfin, vous avez beaucoup de gens qui vivent, qui constitue en réalité une majorité, la colonne
vertébrale. Pas qu'en Europe, les États-Unis, c'est
partout,
ça. Hein, c'est...
Qui constitue en fait le cœur de nos sociétés, qui vivent beaucoup plus mal qu'avant, qui sont très inquiets pour leur avenir. Le triptyque sécurité, immigration, identité, c'est très bien, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la défense des classes moyennes. Et qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, celle qui est perçue comme...
Il fait les deux en même temps, le deux en un.
Plus à l'écoute et la plus en capacité de défendre cette classe majoritaire qui se sent oubliée et en danger, c'est Marine Le Pen. C'est peut-être pas vrai, mais en tout cas...
Non, mais votre analyse, je pense, s'est frappée au coin du bon sens. Jean-Marie.
Ah non, je souscris tout à fait à ce que dit Stéphane. Voilà. Simplement, il ne faut pas exclure que... les espoirs portés dans le Rassemblement national s'amenuisent à mesure qu'on prend confiance dans quelqu'un comme Retailleau. Parce qu'il apporte ce que l'on attendrait d'un vote Rassemblement national, mais en sachant que le Rassemblement national n'est pas... n'a pas de feu vert pour gouverner de la part des Français. Donc on va se reporter plutôt sur des gens de droite, voilà, qui eux peuvent gouverner, eux gouvernent et tirent d'ailleurs profit de leur passage au gouvernement.
Vous parliez du sarkozysme, est-ce que je repose la question, est-ce qu'il va y avoir un retaillisme ?
Je ne crois pas à la répétition du Sarkozy, ça c'est le premier point. Je pense que Jean-Marie, c'est un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que ça ne marcherait pas. Je pense que la situation a changé. 2005-2007, c'est vraiment une autre période. Oui. La vie politique en 2025 et a fortiori 2027, la droite sera obligée d'être sur d'autres dynamiques, ou en tous les cas, d'autres sujets pour enclencher une dynamique, ce qu'elle n'a pas encore aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas parce que Bruno Retailleau a une petite embellie que la droite va
tout
à coup. Je ne sais pas, il faut voir. En revanche, le retaillisme, d'abord, c'est une personnalité, Retailleau. Vous savez, les gens qui le rencontrent, moi, j'ai dit que je connais... Dans le monde politique, ça fait très longtemps, Bruno Retailleau est plutôt quelqu'un qui est combattu par une grande partie, par son positionnement politique, son histoire, la Vendée. C'est quelqu'un qui est vraiment dans ce qu'on appelle la conquête, la bataille culturelle, assez idéologue. Mais il a une personnalité qui désarme beaucoup. Et aujourd'hui, vous avez pas mal de gens...
On vous dit qu'elle désarme. Pourquoi elle désarme?
Parce que c'est une personnalité qui est plutôt convaincante. Et qui s'est fait émerger du... c'est bizarre de dire ça, hein. Qui s'est fait émerger de l'accord et du consensus.
Il
l'a démontré au Sénat. Dans le gouvernement, ceux qui n'étaient pas très contents de se retrouver avec lui, notamment certains macronistes, aujourd'hui, les ministres disent... C'est le ministre le plus efficace du gouvernement et de très très loin. Les parlementaires, les députés et les sénateurs, ils vous diront tous que les dossiers sont traités par Bruno Retailleau et il gagne un capital assez important. C'est quelque chose qui n'est pas visible pour l'opinion, mais qui est très important en termes de réputation. Retaillisme, c'est peut-être ça. C'est de l'efficacité, c'est pas de la flamboyance, mais c'est une autre façon de faire de la politique.
Oui, je voudrais juste vous soumettre une proposition. C'est que vous avez remarqué le sondage de Paris Match qui est sorti ce matin, je crois.
Oui, on y voit d'ailleurs Villepin sortir
voilà,
de
d'un
nulle part.
Coup, ben oui, d'un seul coup.
Je vous dirai que Catherine, vous m'avez habillé tout de suite.
Non, mais attendez, Bruno, je ne crois pas que...
Une seconde,
rassurez-moi. Non, je ne crois pas que Villepin va être président de la République. Je dis juste que l'essor que représente l'impact de Dominique de Villepin dans l'électorat, et je me suis fait préciser 51% pour la droite et 56% pour la gauche.
Est-ce que vous croyez que les gens de gauche voteraient pour Villepin dans une...
Mais non, je ne le crois pas. Je ne suis pas...
Ça marche.
Attendez, laissez-moi terminer juste. Bruno, vous parlez longuement, je peux juste terminer ma phrase, merci. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il se cherche une solution à droite, je suis d'accord, je crois qu'il se cherche des solutions à droite, et que Dominique Villepin, pour l'instant, est regardé parce qu'il représente une autre manière d'être de droite, qui n'est pas justement, je pense, un tout petit peu rabougri, un tout petit peu passéiste, tel que Retailleau l'incarne. Et il y en
Donc
a
vous
d'autres.
Tressez des couronnes à Villepin ce soir.
Je considère que Villepin, en se positionnant comme il se positionne sur la question internationale, et j'ai dit tout à l'heure que je pensais que la façon que l'on avait de traiter l'Algérie et le reste du monde était en fait un mauvais service à la France. Je crois que de Villepin le traite de meilleure manière. Je pense qu'il y a aussi le maire du Havre qui n'a pas dit son dernier mot. Il y a un certain nombre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils se cherchent des solutions à droite, que la proposition qui est celle de Retailleau, qui est une proposition, à mon avis, extrêmement autoritaire et rétrograde, et ne correspond pas du tout à la France.
Si ça marchera, Bruno Retailleau, Catherine. Je vous dis juste que Dominique de Villepin, on a déjà connu ça.
Mon intuition,
en situation, il n'a pas réussi. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait compliqué de voir un électorat à droite.
Je parle juste de l'attente que cela représente. Ça veut dire qu'on cherche une autre. Il y a une partie de la droite ou une partie du pays qui cherche une solution qui n'est probablement pas à gauche, mais qui n'est pas du côté de Retailleau et d'une solution qui flirte avec l'extrême droite.
Non, moi je crois pas. Enfin, je pense que Villepin, c'est un phénomène de bulle dans l'opinion. Il est très connu des Français. Les Français ont le souvenir d'un homme qui a tenu tête aux Américains en 2003. Il continue à surfer là-dessus. Oui. Il a pris une position sans doute aussi qui est entendue par une partie de l'opinion sur le Proche-Orient, sur Gaza.
Une politique, disons-le clairement, pro-arabe depuis le début.
Une politique pro-arabe qui aussi vaguement une nostalgie gaulliste. Après, je vais vous dire un truc sur l'échiquier politique. Villepin, aujourd'hui, c'est pas grand-chose.
Je parle de ce que ça représente comme attente chez les Français.
Jean-Marie.
Mais moi, je ne classerai pas Dominique de Villepin ailleurs que dans la catégorie des candidats autocrates. Donc, il faudra bien faire attention à ce que... je vous assure, franchement,
je parle de ce que ça représente comme attente dans la France qui ne veut pas d'une réponse d'extrême droite.
On parle pas en même temps.
On parle de sujets qui sont importants, etc. Mais on va être de toute façon... Et on est déjà rattrapé par ce qui se passe autour de nous et par le changement de camp, car les États-Unis de Donald Trump sont en train de changer de camp. Et donc se rangent du côté des autoritaristes, des autoritaires, aux dépens de ce qui restera le havre des démocraties dites libérales, à savoir l'Union européenne. Et donc c'est une bataille pour nous existentielle. Et que cette bataille existentielle ne pourra pas ne pas retentir sur les candidatures, la façon dont on voit la présidentielle, et ainsi de suite. Donc là, il faut... Voilà, et on est en train de passer dans cette catégorie-là, ou dans cette période-là, qui va être extrêmement difficile et extrêmement dangereuse.
On accueille Véronique Reissoul pour la chronique sur les réseaux et on va parler des États-Unis et de Trump, son sujet favori. Bonjour ma chère Véronique.
Bonjour.
Alors, les décisions de Trump, les annonces, rythment le quotidien aux États-Unis. Mais est-ce qu'il y a une résistance qui s'organise finalement? Parce qu'on ne les entend pas beaucoup, résistants.
C'est en train de basculer peut-être. Alors je vais déjà vous rappeler deux, trois éléments. Vous savez que la réalité virtuelle est devenue la réalité de Trump. Je vous montre ce qu'il a publié sur son... Sur son compte, voilà, ce sont des images qui sont publiées sur le compte de Donald Trump, des images à base de fausses images, c'est l'intelligence artificielle générative.
C'est quoi, c'est le futur Gaza, ça?
Eh ben, c'est le futur Gaza, avec le futur Musk trop content, avec les gens qui dansent, avec tout ça, enfin bref. Donc, en fait, comment vous dire, avec l'IA générative, avec lui, ce qui est faux devient vrai, n'est-ce pas? Donc, c'est un monde improbable où l'invraisemblable devient vrai, et quand on regarde le nombre de vues, le nombre de commentaires, c'est assez incroyable, surtout que cette vidéo, elle est... la question de savoir si c'est vrai ou pas ne se pose pas, et donc c'est ce mode de fonctionnement de M. Trump et les commentaires qui à l'issue de cette vidéo montrent à quel point l'invraisemblable devient vrai.
Alors les vidéos sont... Oui, pardon.
Et donc, pour répondre à est-ce qu'il y a une résistance, je pense que je vous en avais peut-être pas entendu parler. Je suis pas sûre pour vous, Jean-Marie, mais l'activisme cosméto-politique, c'est un sujet important. Je voudrais qu'on en parle. C'est en fait après le Mar-a-Lago. Le Mar-a-Lago, c'était une façon de désigner l'uniformisation des gens qui sont les leaders d'opinion qui sont autour de Trump, qui se ressemblent tous avec un fond de teint orange, des lèvres repulpées, enfin voilà. Et donc là, vous avez une petite battle. Alors, je vais vous laisser regarder ce faux tuto maquillage. Voilà, alors... Alors, vous voyez la musique que... Voilà, la musique que vous entendez, c'est une musique de country qui dit en gros « God makes girls », donc « Ainsi Dieu a fait les filles ». Et donc, ces faux tutos maquillage se moquent des habitudes de maquillage communes aux partisans du MAGA,
donc un peu d'orange, hein, on voit bien. Et dans tous ces tutos, vous avez, au deuxième degré, ils se moquent un petit peu de la façon dont ces femmes se maquillent, avec beaucoup de fond de teint, beaucoup d'anticerne, du blush criard, des grosses couches de fard à paupières, enfin tout ça. Donc c'est partagé, alors, vous en avez des tonnes et des tonnes sur, sur TikTok. Donc on peut se dire... voilà, c'est une façon de dire vous êtes ridicule quand vous êtes MAGA, voire même se moquant un peu des femmes et des non-féministes. Et figurez-vous que, pourquoi est-ce que je vous disais que ce sont des battles et de l'activisme cosméto-politique, c'est que, bah, évidemment, les libérales ont répondu. Alors, je ne vous montrerai pas les vidéos parce qu'on n'a pas le temps, mais en gros, ça s'appelle Liberal Makeup, alors que l'autre s'appelle MAGA Makeup, et vous avez des battles, et c'est une façon de dire il y a un mode de vie qui n'est pas le même. Évidemment, les libéral make-up se moquent des grosses lunettes, des cheveux de toutes les couleurs. Enfin, voilà. C'est des vrais battles, c'est un vrai activisme. Ça peut vous faire sourire, mais je peux vous dire qu'aux États-Unis, c'est un vrai mouvement. Et c'est un peu comme ça qu'on arrive à répondre aux réalités virtuelles de M. Trump.
Alors, les vidéos sont définitivement le moyen de mobilisation de l'opinion. Dans l'affaire de l'immigration et sur la régularisation des travailleurs illégaux dans les métiers en tension, l'a encore démontré.
Eh bien oui, alors en Allemagne, ils ont sorti une vidéo qui est très efficace, je vais vous la montrer là. C'est une vidéo, en fait, vous voyez des métiers en tension et tous les gens qui s'en vont sont des gens qui sont issus de l'immigration. Et à chaque fois, il reste quand même très peu de gens et selon les métiers, même quelquefois quasiment qu'une personne. Donc ces vidéos, elles ont été partagées, repartagées. Alors c'est une vidéo, des vidéos allemandes, mais en France, on les a beaucoup partagées, en particulier en ce moment avec les débats. Comme vous voyez, il n'y en a pas beaucoup qui restent à chaque fois. Je crois même que celle-ci, il y en a même qu'une ou deux, voilà, trois, voilà. Donc c'est assez efficace. En France, ça a été beaucoup repris. Pourquoi ça a été repris ? Bien parce que c'est évident, mais surtout, c'est une façon souvent... Ouais, c'est là où elle est toute seule. C'est une façon finalement de dire, bah oui, c'est évident, il faut régulariser, parce que les Français ne sont pas forcément contre, et donc c'était assez efficace. Mais là où c'était intéressant, c'était de voir les commentaires en France où, en fait, les gens découvrent qu'on peut travailler sans papier pendant 10 ans, avoir une vie tout à fait normale et que bah, tout d'un coup, on découvre que ces gens doivent être régularisés. Ce n'est pas que les Français sont contre. Ils se posent plus la question de « Ok, mais comment est-ce qu'on peut vivre 10 ans sans papier ?» Je vous passe des gens qui expliquent qu'eux, ils sont arrêtés tous les 3 mètres et que, visiblement, ça veut dire que les gens qui arrivent à passer pendant 10 ans à travers... les mailles du filet vivent une vie particulièrement complexe.
Et vous vouliez, pour finir, montrer les fameuses fausses vidéos, et cette fois avec de sauvetage d'animaux.
Mais oui, parce que je me dis, tout ça, en fait, je me suis dit, je fais une chronique vidéo. Allez, on y va.
Ouais.
Et fake news, et vous dire que définitivement, ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Alors voilà, je vais vous montrer cette vidéo. Il y en a plein. C'est des vidéos qui sont là pour expliquer aux gens et montrer. Vous voyez des scientifiques, des marins qui sauvent des animaux, comme vous le voyez, les débarrassent d'affreux coquillages parasites. C'est des images qui ont été partagées plus de 50 millions de fois. Hein, donc c'est pour dire à quel point ça rigole pas. Mais en fait, elles sont fausses, ces images. Elles sont là encore des images générées par IA. Alors, est-ce que c'est grave, vous allez me dire, puisque c'est pour la bonne cause? Ben oui, c'est grave. Pourquoi? Parce que c'est des fausses infos et elles peuvent avoir l'effet inverse de ce qui est attendu. C'est-à-dire qu'en fait, ça met en danger les animaux parce que les images donnent l'impression que, en fait, il y a une relation entre les humains et la faune sauvage qui est incroyable. Je vous montre celle-là, mais il y en a plein, plein, plein. Et que, en fait, il faut les aider, qu'il faut aller vers eux, qu'il faut les tripoter. Alors qu'en fait, une bonne action peut même se retourner contre les animaux sauvages, pas pour rien qu'il y ait des lois.
C'est quoi le but de ça, par exemple?
C'est partager des bons sentiments. C'est des gens qui ont utilisé l'image artificielle pour dire prenons soin de la faune sauvage.
Là, à la limite, c'est pas trop grave.
Mais si, c'est grave parce qu'en fait, c'est l'opposé ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut laisser les animaux sauvages. Et c'est pas par hasard qu'il y a des règles qui disent que vous pouvez pas approcher des animaux sauvages à plus de 100 mètres. Okay. Et qui plus est, les coquillages, c'est pas du tout dangereux pour les animaux sauvages.
Ah bah oui. En termes de rémunération, c'est beaucoup d'argent, c'est tout en fait.
Mais c'est présenté sous un angle bienveillant et voilà. Mais c'est juste pour vous dire que même quelque chose qui a l'air sympathique, gentil, voilà, il faut s'en méfier, le partager, le liker, voilà.
Et le petit ours là, qu'est-ce que...
Ah bah il y en a plein, c'est plein d'images artificielles. Le pauvre ours, vous voyez, il a des...
Mais c'est quand même...
Il y a des coquillages.
C'est quand même très bien fait.
Ben oui, mais les images artificielles, c'est très bien fait. C'est pour ça que toutes les semaines, je vous saoule avec mes histoires.
Mais non, mais vous ne saoulez pas. Mais
attention, ne partagez pas n'importe quoi.
Bon, voilà. Merci, ma chère Véronique. Personne n'a rien à dire. Non, disent oui ou non.
À gratter.
Bon, se taise pour l'éternité.
On est rentré dans un monde de dingue. Moi, c'est tout ça.
Oui, mais c'est parce que là, c'est le vraisemblable qui devient vrai, alors que c'est juste vraisemblable.
Sous l'empire de la cupidité.
Ouais. En plus.
La motivation, c'est ça.
Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à Flore Simon d'avoir préparé cette émission. Et merci à toute l'équipe technique. À très vite.